Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Après l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles, la Commission électorale nationale indépendante s'apprête à produire et à afficher des listes électorales provisoires au site de vote. Pourquoi les électeurs doivent-ils aller consulter ces listes électorales provisoires? Où seront affichées ces listes électorales? Comment reconnaître les sites de vote sur sa carte d'électeur? Y a-t-il des réclamations à faire au site de vote et auprès de qui les faire? Voilà, nous avons des réponses à toutes ces questions avec notre invité, Désiré Molekela, directeur chargé de l'éducation civique électorale à la CENI. Encore une fois, bonjour, monsieur Désiré.
Bonjour.
Quel est à ces jours l'état des lieux de l'opération de stabilisation des cartographies opérationnelles dans la deuxième ère opérationnelle?
D'une manière générale, selon le monitoring qui date du 7 octobre, 130 antennes sur 150 ont déjà terminé la collecte des données sur terrain, soit 87%. Mmh. Il y a le retour des préposés à la collecte des données qui sont déjà rentrés aux antennes parce qu'ils travaillent dans les groupements. Pratiquement 99% ont déjà regagné l'antenne avec les données récoltées sur terrain. En ce qui concerne le nombre de sites de vote confirmés, parce que leur travail c'était de visiter tous les sites de vote qui étaient opérationnels en 2011 pour voir s'ils existent, parce qu'une école peut être détruite, peut être déplacée, et proposer d'autres sites de vote là où c'est nécessaire. Mmh. Donc 88% des sites de vote ont été confirmés. En ce qui concerne le nombre de villages visités, ils ont visité 98 villages déjà. Donc
à travers le territoire national.
Territoire national, sauf pour le Bandundu, qui était la province opérationnelle, ça s'est passé avant. Tandis que maintenant, c'était pour Kinshasa et les autres provinces.
Bien. Alors, après la stabilisation des cartographies opérationnelles, quelle est l'étape suivante?
Bon, d'abord, il est bon de rappeler en quoi a constitué la stabilisation des cartographies opérationnelles. C'est important. En fait, cette cartographie servait en fait à améliorer la nomenclature des groupements, des villages et des quartiers. Parce qu'il faut qu'on puisse spécifier le nom de chaque entité territoire, harmoniser s'il y a divergence de nom. Il fallait également géolocaliser l'entité de base et les sites de vote. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire pour chaque entité, pour chaque site de vote, on devait prélever avec un appareil qu'on appelle Garmin, la longitude et la latitude, pour situer exactement où se trouve le territoire ou le site de vote sur une carte géographique. Ensuite, il fallait regrouper les villages autour des sites de vote. C'est important pourquoi? Vous savez, lorsqu'il y a eu révision du fichier électoral, il y avait des groupements qui n'avaient pas de centre d'inscription. Donc, ce qui veut dire que ce groupement n'avait pas de site de vote. Le principe, c'est qu'on vote, là, on se fait recenser. Alors, dans cette opération, là où c'est nécessaire, il a fallu créer ou proposer la création de nouveaux sites de vote. Si, par exemple, dans un groupement, il y avait un seul site de vote avec 20 villages, et que, compte tenu de l'étendue du groupement, ou des difficultés d'accès, ou de la densité de la population, le préposé, en accord avec le chef de groupement, estime qu'il faut créer un site de vote au nord, ce qui fait que certains villages seront maintenant regroupés autour d'un nouveau site de vote. Donc, il est important qu'on puisse regrouper les sites de vote, les villages autour de ce site de vote. Et enfin, il fallait déterminer les possibilités d'accès à ces entités, ainsi qu'à ces sites de vote. Alors, maintenant que cette opération est terminée, la deuxième opération, en fait, ça consiste à pouvoir afficher les listes électorales et à demander aux électeurs d'aller les consulter. C'est très important pour voir si leur nom se trouve sur cette liste-là.
Oui.
Et ça nous permettra à intégrer certains électeurs qu'on dit omis. C'est-à-dire, ils ont leur carte d'électeur, mais ils sont absents dans notre fichier électoral. Ils vont constater que leur nom n'est pas affiché. On va vérifier, effectivement. On pourra prendre toutes les coordonnées, tous les éléments pour les proposer à l'affichage pour pouvoir les intégrer dans le fichier électoral. Ça permettait également de répartir les électeurs dans les sites de vote Et aussi une opération qui est importante, c'est extraire du fichier électoral le cas des doublons. Les doublons, c'est quoi? C'est un électeur qui s'est fait enrôler 2, 3, 4 fois. La différence, c'est qu'en 2011, après la révision, on a traqué les doubles enrôlements au niveau de chaque province. Mais maintenant, la traque se fait au niveau de toutes les provinces. Et on a effectivement remarqué que certains électeurs...
étaient enregistrés plusieurs fois.
Voilà, plusieurs fois, non seulement dans la même province, dans deux provinces.
Dans des provinces différentes.
Différentes, voilà. Oui. On va les traquer pour les déboulonner. Ensuite, on va également produire des statistiques crédibles d'électeurs par ces conseils électoraux de base que constitue le groupement et la commune est partie de vote, ce qui permettra de pouvoir proposer les données pour la loi portant répartition des sièges pour les élections urbaines, municipales et locales.
Bien, et à l'étape de la stabilisation des cartographies opérationnelles, la CENIA travaille avec les préposés à la collecte. En sera-t-il les mêmes pour l'opération des fiabilisations du fichier électoral?
Non, pour l'affichage, donc la fiabilisation, donc ce qui veut dire affichage provisoire des électeurs, la CENIA va recruter 2 préposés à l'affichage. Là, c'est les préposés à la collecte des données. Maintenant, c'est les préposés à l'affichage. Qui vont travailler 2 par site de vote. C'est très important.
Et ils vont afficher les listes?
Les listes de chaque site de vote.
Dans chaque site de vote.
Lorsque l'électeur vient, il est reçu, il est orienté. Et lorsqu'il y a des réclamations, il y a des fiches qu'on doit remplir. Et en plus, à cette étape-ci, ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement l'agent de la CENIA qui est l'acteur, mais c'est surtout l'électeur. Donc l'électeur a, je dirais, entre guillemets, l'obligation d'aller voir sa liste électorale, de consulter pour voir s'il est sur la liste provisoire des électeurs, mais il donne sa carte d'électeur, parce que pour être électeur, la qualité, c'est avoir sa carte d'électeur.
Voilà, c'est avoir sa carte d'électeur. Auprès de qui l'électeur doit-il faire sa ou ses réclamations, quand il y a des réclamations à faire?
Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réclamation est faite auprès des préposés à l'affichage, qui sont des agents temporaires recrutés par la CENIA et affectés dans les sites de vente. Il n'y a qu'eux qui peuvent recevoir les réclamations.
Et quels sont les types de réclamations, par exemple, à faire?
Bon, disons qu'il y a plusieurs types de réclamations. Et d'abord, le cas où le nom de l'électeur est posé sur la liste des électeurs affichés. Il y a le deuxième cas où le nom n'est pas sur la liste des listes électorales affiché.
Et là, immédiatement, il faut le faire remarquer.
Oui, il faut le faire remarquer.
À la personne au préposé.
Oui, moi, oui. Par exemple, dans le site de vote, dans ma carte d'électeur, c'est marqué site de vote de Sainte-Anne. J'arrive à Sainte-Anne, mon nom n'est pas là. Il faut faire la réclamation auprès du préposé. Il va essayer de faire des recherches pour savoir pourquoi votre nom n'est pas là, alors que votre carte d'électeur indique que c'est votre site de vote. Alors, il se peut également que votre nom est là, mais peut-être que vous êtes éloigné de plus de 10 km. À votre résidence de...
Peut-être qu'on vous a affecté ailleurs, dans un autre
site. Voilà, ça peut arriver aussi. Parce que lorsque les gens venaient, l'opérateur de ceci, parfois, ne demandait pas à l'électeur où voulez-vous qu'on vous affecte par rapport à votre lieu de résidence. Il y en a qui ont été affectés dans un site qui est un peu éloigné. Donc, il y a maintenant moyen de corriger ça. L'électeur va réclamer, dit que non, moi, j'habite à tel endroit et le site de vote, le proche, c'est celui-là. Donc, le préposé à l'affichage va prendre toutes ces réclamations. Il va les remonter ici au niveau du CNT pour qu'on puisse restituer l'électeur dans le site de vote qui est près de sa résidence.
Et où sont situés les sites de vote, hein?
Bon, les sites de vote, en fait, sont situés dans les écoles, essentiellement, dans les hôpitaux ou dans les lieux publics. C'est là qu'on a situé les sites de vote.
Voilà, des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Nous parlons de l'affichage des listes électorales provisoires par la CENIA. Pourquoi les électeurs doivent-ils les consulter? Désiré Molekela, directeur chargé de l'éducation civique électorale à la CENIA, est notre invité.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Affichage des listes électorales provisoires par la CENIA. Pourquoi les électeurs doivent-ils les consulter? Appelez-nous pour participer. N'attendez pas les dernières minutes. Composez le 081-890-6394. Envoyez vos SMS au 081-711-5001. Et écrivez-nous à service@radiokapi.net. Désiré Molekela, directeur chargé de l'éducation civique électorale à la CENIA. Et notre invité, une autre question, Désiré, c'est celle de savoir comment reconnaître le site de vote sur la carte
carte d'électeur.
Oui, effectivement, il faut le préciser. En fait, le site de vote est inscrit sur la partie supérieure droite de votre carte d'électeur, après l'abréviation SV. SV veut dire site de vote. Donc, vous verrez au-dessus, il y a le drapeau national, la RDC et le numéro national. Entre les deux, c'est marqué SV et ça veut dire site de vote. On met alors le nom de l'école ou du village ou du centre hospitalier.
C'est dans la partie, vous avez dit gauche. Hein.
Non, supérieure. Partie supérieure, droite.
Droite.
Droite de la carte d'électeur.
D'accord.
Entre le drapeau national et le numéro national, c'est marqué SV 2 points. On met Sainte-Anne ou bien Don Bosco ou bien le nom du village. C'est là, en fait, qu'on peut reconnaître le site de vote. C'est important.
D'accord. Et comment reconnaître le site voilà, vous avez répondu à cette question. Et que faire en cas de perte de la carte d'électeur? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. J'ai perdu ma carte d'électeur. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là?
Oui, c'est important parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour aller consulter liste électorale, il faut avoir sa carte d'électeur. C'est important parce que c'est ça qui montre que vous êtes électeur. Parce que cette opération n'est pas une nouvelle révision de fichier électoral. On ne va pas enregistrer de nouveaux électeurs. Donc, il faut être électeur pour aller voir la liste électorale. Alors, en cas de perte de la carte d'électeur, l'électeur qui a perdu sa carte d'électeur va s'adresser auprès de l'officier de police judiciaire, OPJ, qui va lui établir un procès verbal de perte de carte d'électeur. Muni de ce document, il va alors se rendre à l'antenne de la CENI. Et comme vous savez, les antennes sont situées dans chaque territoire et ville du pays. Où il s'est fait enrôler. Il s'adresse au chef d'antenne de la CENI qui est le responsable au niveau de l'antenne.
Mmh.
Le chef d'antenne, après vérification et réception du procès verbal de la perte de carte d'électeur, va donner au électeur qui a perdu sa carte informée de demande de duplicata. On demandera un certain nombre de renseignements. Le nom, le poste-nom, l'adresse.
Mais c'est OPJ là, on va les trouver où?
Bon, l'OPJ en fait c'est soit au niveau de la police, soit même au niveau des communes, des autorités territoriales. Les autorités territoriales sont des officiers de police judiciaire. Donc ils peuvent accorder ce PV. Alors, à ce moment-là, les personnes vont remplir le formulaire, on va donner le nom, l'adresse, nom du père.
C'est moyennant, faut-il payer ou c'est ça
non,
se gratuitement?
En tout cas, cette démarche est gratuite. De la même manière, la carte d'électeur a été donnée aux électeurs gratuitement, de la même manière, le duplicata est donné gratuitement. Donc, il n'y a rien à payer au niveau de la Commission électorale indépendante lorsqu'on va à l'antenne pour réclamer qu'on remplace la carte perdue par un duplicata.
Deux auditeurs en ligne, Samuel Mouyalou et Talumbashi. Maître Gaston nous appelle depuis Idiofa, dans la province du Bandundu. On commence avec Samuel de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jeudi.
Quelle est votre question, Samuel?
Bon, vous savez, dans la vie, on a toujours dit l'humilité précède la gloire. Moi, je dois vous dire que j'ai des choses que je ne comprends pas. On parle des élections locales. Moi, je sais que le pays est divisé en provinces, provinces en districts, et puis districts, territoires. Et après les territoires, j'ai du mal, je ne connais rien. Alors, on parle des élections de chefs de secteur, mais on nous dit que la circonscription, c'est le groupement. Alors, qu'est-ce qu'un groupement? Qu'est-ce qu'un secteur? Qu'est-ce qu'une chiffrie? Qu'est-ce qu'une commune? Quelle différence y a-t-il entre groupement, secteur et chiffrie? Ce sont les choses que je vais comprendre, monsieur le journaliste.
D'accord, merci Samuel. Maître Gaston, vous êtes à Idiofa, bonjour.
Merci, j'ai dit, à vous aussi, bonjour.
On vous écoute. Hein.
Bon, disons que parmi les entités, celles que je ne vais pas citer ici, ce sont des entités déconcentrées. Il y a ceux qui sont décentralisés, c'est la chefferie, le secteur, la commune ainsi que la ville. C'est l'endroit où vont se dérouler les élections. Mais je voulais un peu poser la question à l'invité. Est-ce qu'il craint pas? Il craint pas parce que vous savez que d'ici là, vous avez dit qu'il y a des gens qui vont aller visiter les listes. Et à mon avis, ce sont des gens qui étaient enrôlés en 2006, si je ne me trompe pas, 2011. Mais après cette date-là, il y a ces Congolais qui ont atteint 18 ans, qui ne vont pas voir leur nom là-bas. Mais il y a des ceux-là qu'on a refoulés, qu'on a expulsés de l'étranger, qui sont ici. Et vous voyez que les taux de ceux qui vont aller voir les listes, vous savez, même ceux qui ont des cartes d'électeurs, beaucoup ne veulent pas participer à cette procédure. Ce serait un minime, qui n'aura pas de pacte. Et est-ce que l'invité connaît la position de ces autres-là qui ne vont pas intervenir à cette procédure? Et il craint pas qu'il y ait des désordres par rapport à cela. Et puis la chefferie, vous savez que non, il y a un conseil qui sera élu au niveau de la chefferie, mais le chef de la chefferie, lui, il est désigné par rapport à la coutume. Est-ce que vous ne craignez pas que la démocratie puisse se mêler à l'autocratie? Ça ne va pas marcher, merci.
Bien, merci Maître Gaston Malonga. Vous êtes à Bandundouville, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kassamaya, notre invité.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Bon, concernant ces listes provisoires, comme les termes les désignent, est-ce qu'il y aura encore d'autres listes qui ne seraient pas provisoires? Bon, en plus de cela, si dans le milieu où je me situe, je regarde dans toutes les listes, mon nom ne figure pas. Comment sera mon sort? Est-ce que je serai votant ou bien non?
Bien, merci. Steve, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour, bonjour, Jodine Kassama, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, ma préoccupation, l'invité a bien parlé concernant ceux qui ont perdu les cartes, leurs cartes de repère, ils doivent aller obtenir un document. Ces documents, les procès verbal, on va payer ou ça sera gratuit? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, je vais parler en général pour ceux qui voyagent beaucoup plus. Que nous étions à Lubumbashi, on s'est retrouvés à Kolwezi. Les gens qui changent les titres, comment est-ce qu'ils vont voter aussi? C'est ça ma petite préoccupation.
Bien. Ceux qui changent de milieu, vont-ils voter ou pas? Oui. Oui, on vous écoute, Steve.
Ceux qui changent les titres.
Ceux qui changent.
J'ai parlé, ceux qui changent de ville, quelqu'un qui est à Kinshasa qui se retrouve à Kolwezi, comment est-ce qu'il va voter? Oui.
Bien, merci Steve de Kolwezi. Pichu Chimanga de Kisangani, bonjour.
Oui, bonjour aujourd'hui. Oui. J'ai deux petites questions à poser à notre invité. La première est celle-ci. Pourquoi l'IDPS, parce que nous avons remarqué en 2011, l'IDPS voulait se retirer des élections. Pourquoi l'IDPS réclamait la vérification du serveur de la CENI afin de se fixer sur la liste électorale? Parce qu'on ne connaît pas vraiment la raison. S'il peut me donner la réponse. La deuxième est celle-ci. Quel rapport y a-t-il entre les serveurs et les fichiers électoraux? Merci beaucoup.
Bien. Rapport entre serveurs et fichiers électoraux. Désirez-moi lesquels?
Bon, la première préoccupation, c'était en fait au niveau des entités dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux.
Voilà, Samuel veut savoir c'est quoi le groupement, les secteurs, oui. La chefferie, il ne comprend pas bien ces différents concepts.
Effectivement, dans les villes, en fait, on parle des communes et des quartiers, comme à Kinshasa, commune de Kassavubu, quartier tel, quartier tel. Alors que dans les milieux ruraux, on parle du territoire, le territoire qui est divisé en plusieurs secteurs, le secteur regroupe plusieurs groupements, et un groupement regroupe plusieurs villages. Voilà un peu comment sont constituées les entités au niveau...
Donc les villages urbain. Sont les chefferies?
Non, non, non. En fait, les chefferies sont au niveau des secteurs. Les secteurs sont dirigés par les chefs des secteurs. Alors que les chefferies, comme a dit d'ailleurs un interlocuteur, sont désignées par les chefs coutumiers, qui ne sont ni désignés, comme c'est le cas maintenant, et qui ne seront pas élus lorsqu'il y a les élections locales, qui vont rester parce qu'ils sont désignés par la coutume. Mais par contre, ils seront appuyés par un conseil de chefferie. En fait, c'est pour essayer de renforcer la démocratie, même au niveau des chefferies, parce que là aussi, la population a droit à la démocratie, a droit à élire les gens qui vont défendre sa cause au niveau de la chefferie. Mais le chef coutumier n'est pas nommé, il est désigné par la coutume.
Mais il est entouré d'un conseil...
Voilà, d'un conseil de chefferie, qui sera là en fait pour l'assister, pour essayer de faire des lois, prendre des décisions, écouter la population et proposer effectivement des décisions pour améliorer la vie de la population au niveau de la chefferie.
D'accord. Maître Gaston a dit, que dites-vous par rapport aux nouveaux majeurs? Vont-ils voter ou pas? Les expulsés de l'Europe et d'ailleurs, et qui sont rentrés de l'Angola, vont-ils voter ou pas?
Oui, c'est une question qui est pertinente parce que normalement, en fait, on revise le fichier électoral pour tout un cycle électoral. Le cycle qui a commencé en 2011, qui va se terminer en 2016. Ce qui veut dire que ce fichier électoral-là sera appliqué jusqu'en 2016. C'est pour les élections de 2016 qui vont entamer un nouveau cycle qu'on va de nouveau reviser le fichier pour intégrer les nouveaux majeurs. Ce qui veut dire que pour les élections locales qui vont intervenir en 2015, les nouveaux majeurs ne vont pas voter. Ils doivent attendre peut-être vers 2015, lorsqu'on pourra de nouveau intégrer les nouveaux majeurs. Ils pourront voter alors aux élections présidentielles législatives de 2016.
Et les expulsés de l'Angola et des autres pays? Bon, ils sont rentrés au pays.
Oui, ils sont rentrés au pays. C'est-à-dire que si les expulsés, parce qu'il y en a qui avaient leur carte d'électeur et qui sont partis à l'étranger. Donc, quand ils reviennent, ils ont leur carte d'électeur.
Les expulsés des Brazzaville.
Oui, oui, effectivement. Eux aussi, ils sont concernés. Il y en a qui ont quitté soit Kinshasa ou Mbandaka ou Louose, ils sont allés de l'autre côté à Brazzaville. Donc, s'ils ont leur carte d'électeur, qu'est-ce qu'on va leur demander? D'aller dans les sites de vote près de leur résidence. C'est là qu'on va vérifier. Et s'ils sont là, on va corriger s'il y a des erreurs. Et ils vont voter, il n'y aura aucun problème pour eux, puisqu'ils ont les cartes d'électeurs. Il n'y a que les habitants de la diaspora qui n'ont pas de cartes d'électeurs, qui pour le moment ne peuvent pas voter. Mais certains ont pu peut-être, pendant un voyage, venir ici pendant la révision. S'ils ont leur carte d'électeurs, ils pourront voter en 2015 sans problème.
Bien. Affichage des listes électorales provisoires, pourquoi les électeurs doivent-ils les consulter? Et Sokowa nous appelle des Kindou, on va l'accueillir dans quelques instants.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Et Sokowa, bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Ok, je réponds au nom de monsieur Sokowa Unumbe à partir de Kindou Maniema. Ok, j'ai presque trois petites questions que je voulais poser à l'invité. La première, parce que je n'ai pas encore entendu bien parler, n'est-ce pas, donc des fichiers électoraux et provisoires. Pourquoi provisoires? Parce qu'il y aura encore d'autres à rectifier. C'est ça la première question. La deuxième question, on tient compte aussi donc des provinces qui sont moins peuplées. À l'âge des votants, il faut avoir 18 ans. Mais alors, on tient aussi compte aussi de l'âge, parce que celui qui a un âge élevé, donc on fait le vote. Est-ce que cela est vrai ou faux? Alors, la troisième question, moi, je devrais poser la question à l'invité. Est-ce qu'on peut faire le vote selon le choix du milieu? C'est trois questions que je voulais poser à l'invité. Merci de m'avoir accordé.
John Less, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Oui, c'est John Kaïté, merci, bonjour.
Bonjour, quelle est votre question? Veuillez éteindre votre radio, vous êtes à côté d'une radio allumée et là ça dérange un peu l'antenne. Veuillez l'éteindre, vous allez suivre à partir de votre téléphone.
La commission électorale indépendante collabore avec le service de sécurité d'État parce que nous voyons quand on est dans le site, on n'est pas vraiment en sécurité. Donc vous sentez quelques gens ne sont pas vraiment à l'aise, parfois chasser, bousculer, tout ça. Bon. Il y a aussi peut-être l'opération commence à 8 heures partout. Mais vous allez dans d'autres sites, les élections commencent à 17 heures, aller jusqu'à 23 heures. Bon, je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'ai constaté ici à Lubumbashi. Il y a aussi le problème, par exemple, ceux qui sont à l'est du pays, la sécurité. Il y a des gens qui doivent quitter 80 kilomètres pour aller seulement voter et rentrer. Ils arrivent là-bas, il y a beaucoup de temps mort, bon, on ne sait pas. Comment ils réfléchissent ce problème? Et une proposition, moi j'ai mal aux gens qui laissent tomber leur carte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'ajouter un numéro de téléphone, par exemple pour ceux qui sont dans les milieux où les réseaux s'opèrent? On ajoute un numéro de téléphone là-bas, et si on ramasse ça, on peut, si on est de bonne volonté, on appelle la personne que de faire ça comme ça.
Bien, merci. Modeste Sabiti de Beni, bonjour. Modeste, vous êtes...
Modeste Sabiti
Modeste,
de Moulembo.
Vous êtes plutôt à Moulembo, on vous
à
écoute.
Moulembo, Katanga.
D'accord. Quelle est votre question? Tati, vous faire attention. Alors, allez-y, on vous écoute.
Ma question, j'ai peut-être des petites questions à poser à l'invité. La première est celle-ci. Que faire au cas où je me trouve éloigné de mon centre de bureau de vote respectif où les listes seront affichées? Et ma deuxième question, comme ces listes sont provisoires, est-ce qu'on pourra accorder aussi une liberté provisoire aux détenants pour qu'ils aient l'occasion d'aller visiter ou regarder leur nom sur ces listes-là?
Si on peut accorder une liberté provisoire aux détenus pour aller voir si leurs noms sont sur les listes, bien Désiré Moleké va répondre tout à l'heure. Merci. Monsieur Désiré, on vous écoute.
Bon, d'abord, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, puisqu'on parle des listes provisoires des électeurs qui seront affichées. Pourquoi on dit cela? Parce qu'en principe, ce sont en fait des listes provisoires parce que on veut juste scruter pour savoir si l'électeur est ou non sur cette liste-là. Normalement, les véritables listes électorales ne sont affichées par la CENI qu'avant le scrutin. C'est la loi qui oblige la CENI à afficher ces listes-là avant le scrutin, et également devant le bureau, chaque bureau de vote. C'est ça qui dit la loi. Mais maintenant que nous voulons faire une opération pour améliorer le fichier électoral, c'est comme ça que nous parlons de liste provisoire des électeurs.
Après vérification, lorsque les électeurs auront vérifié si leurs noms ne sont pas là, et la CENI va corriger et sortir les listes définitives.
Voilà, avant les scrutins.
Avant les scrutins. Voilà. Est-ce que les détenus qui sont en liberté provisoire...
Bon, malheureusement non, parce que l'opération demande à ce que l'électeur aille soi-même, sans procuration, avec sa carte d'électeur pour voir les listes. Donc, ils ne pourront pas, malheureusement...
Mais il est tenu qui a demandé sa liberté provisoire, et il est là, est-ce qu'il ne peut pas aller?
Bon, c'est-à-dire que si on peut lui donner une liberté provisoire, il sera en site de vote, il sera reçu, il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. D'accord. Steve de Colosi dit, il parle, est-ce que le procès verbal, pour celui qui a perdu sa carte d'électeur, est-ce que le procès verbal qu'il doit obtenir auprès de l'OPJ, c'est gratuit ou c'est payant?
Bon, là, je ne pourrais pas répondre à la question. Il faut plutôt poser la question aux autorités territoriales, ou à la police, ou aux officiers de police judiciaire.
Mais généralement, il faut payer.
Mais je pense que c'est payant. Je pense que c'est payant. Mais
combien tout ça, c'est pas déterminé.
Bon, c'est pas déterminé.
Bon, changement des milieux. Lorsqu'on change de ville, on change de milieu. Est-ce qu'on pourra voter?
Bon, normalement, non, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on vote là où se fait inscrire. Cette opération, justement, va essayer de récupérer certaines personnes, notamment, je parle ici des déplacés. Il y a des gens qui sont déplacés pour des raisons de sécurité de guerre et qui, peut-être, ont été enrôlés ailleurs, mais ne sont rentrés dans le milieu d'origine. Ils vont se présenter, on va les récupérer. Mais par contre, les gens qui voyagent, par exemple, il s'est fait inscrire à Kalamu, le jour du vote, il est au Bas-Congo, il est évident qu'il ne pourra pas voter, parce que pour voter, il faut que le nom soit sur la liste électorale affichée devant le bureau de vote.
Et Pichu de Kisangani dit en 2011, lui, il est prêt à se réclamer la vérification du serveur de la CENI. Alors, il voulait savoir quel rapport il y a entre le serveur et le fichier électoral.
Bon, en fait, la différence, c'est que le fichier électoral, c'est les données sur tous les électeurs, à peu près 32 millions. Par contre, le serveur, bon, en simplifiant, c'est en fait un ordinateur avec une grande capacité qui peut en fait emmagasiner, avoir de cette base de données beaucoup d'informations. D'ailleurs, dans la base de données serveur de la CENI, il n'y a pas que les données sur le fichier électoral. On a également des données, par exemple, sur la liste des... si de vote, la liste des agents qu'on recrute sont dans la base de données. Donc, là, en fait, il y a une différence entre le fichier électoral, qui en fait contient la liste de tous les électeurs qui ont été recensés, et le serveur, qui est un instrument technique, un ordinateur à grande capacité pour emmagasiner des données.
John revient sur la sécurité dans les sites de vote, et puis Modeste parle, les gens doivent parcourir des longues distances pour atteindre un site de vote. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Justement, l'opération qui est en cours veut corriger cela. C'est surtout pour les milieux ruraux. Et là, ce qu'on est en train de faire, le préposé, quand il arrive dans un groupement, il se rend compte que le groupement est étendu, ou qu'il y a un obstacle, ou qu'on voit que les villas sont loin de plus de 10 km de ce site de vote-là, il propose qu'on crée un site de vote pour essayer le plus possible que la distance ne dépasse pas 10 km. Ce qui empêchera effectivement à ce que l'électeur puisse faire 20, 40, 50 km pour aller voter. Donc le but de cette opération, entre autres, c'est aussi pour réduire la distance entre le lieu de résidence de l'électeur et son site de vote.
Voilà, donc, et il y a un auditeur qui a dit, est-ce que vous pensez que les gens vont se donner la peine d'aller vérifier leur nom sur les listes? Il y a un auditeur qui a parlé de ça quelque part.
Oui, je crois qu'ils ont intérêt, parce que l'avantage, c'est qu'ils connaîtront à l'avance leur site de vote. Ils pourront faire des réclamations, notamment pour ceux qui sont omis, qui ont leur carte, mais qui ne sont pas sur la liste électorale. C'est un avantage certain. Et puis, de toute manière, pour ceux qui ne vont pas aller consulter les listes électorales, donc, on ne pourra pas faire des corrections. Si, par exemple, son site de vote qui est sur le cadre d'électeur est éloigné de 40 km et qu'il ne va pas, il va conserver ce site de vote-là. Alors que s'il va pour voir la liste électorale, on va constater que le site de vote est éloigné, on pourra laisser dans le site de vote qui est près de sa résidence. Donc, l'électeur a intérêt à aller voir.
Oui.
Pour vérifier qu'effectivement, que demain, d'abord qu'il connaisse son site de vote, il n'aura pas à le chercher le jour du vote. Ensuite, pour qu'on puisse réduire la distance entre ce lieu de résidence et le site de vote, il sera appelé à voter l'année prochaine.
Francis Sadi, qui est à Kinshasa, et Sola également. Francis, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Et en 2011, j'étais enrôlé et j'ai voté à Yolo Iso.
Oui.
Maintenant, mon habitation se trouve en Passa. Est-ce que je viendrai d'abord consulter les listes provisoires à Yolo Iso ou bien je vais me présenter en Passa pour dire que mon nom n'est pas sur la liste là-bas?
D'accord.
Pour que mon nom, parce que je vais, en 2016, je voterai en Passa. C'est là où se trouve maintenant mon habitation.
Bien. Et Sola, vous êtes à Kinshasa. On vous écoute. Bonjour.
Bonjour, Radio Kassi.
On vous écoute.
Oui, c'est M. Sola de Kinshasa. Alors, ma question est celle-ci. Cette procédure-là, la procédure de réclamation des pertes de cartes d'électeur, je vois que cette procédure est vraiment très longue. Il y aura aussi des agents de police et des OPJ, comme il a dit, qui vont demander quelque chose et tout ça. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu leur carte d'électeur. Comment est-ce qu'ils peuvent réclamer ou aller chercher la carte jusqu'à une grande procédure comme ça? Moi, je préfère qu'on puisse encore réviser l'enrôlement, qu'on puisse aussi réviser le fichier électoral pour même ceux qui n'ont pas eu la carte d'électeur, ceux qui avaient 17 ans puissent avoir cette carte d'électeur. Parce que je vois qu'il y aura un grand désordre. Parce qu'il y aura même les policiers là, les OPJ là, ils vont demander quelque chose et tout ça, jusqu'à arriver. Je vois que vraiment ça sera un désordre. Il faut qu'on puisse donner la chance à ceux qui ont perdu ces cartes d'électeurs pour qu'on puisse leur donner pour la deuxième fois.
D'accord, merci, monsieur Désiré Moulekela.
Bon, d'abord, il y a cet électeur qui auditeur qui a habité Yolo, qui a voté en 2011 là-bas, qui est maintenant en Passa. Mm. Bon, la procédure veut qu'il aille au site de vote où il s'est fait enrôler.
Donc, à Yolo Iso.
Il va aller à Yolo Iso. Et là, il va demander, il va dire, il va voir si son nom est là. Il va voir le préposé à l'affichage, dire que non. Maintenant, moi, j'habite en Passa. Je n'habite plus à Yolo. Mm. Parce que c'est plus facile qu'il aille là, il se fait enrôler. On pourra facilement vérifier l'authenticité de sa carte d'électeur, vérifier s'il est là. À ce moment, on va lui faire remplir une fiche qui va remplir en disant que non, désormais, moi j'habite en Passa. Ainsi, en 2014, on pourra le mettre sur la liste électorale d'un Passa.
Voilà. Et il va voter en Passa.
Il va voter en Passa, donc près de sa résidence.
D'où l'intérêt d'aller vérifier.
D'aller vérifier, effectivement.
Ces listes provisoires qui seront affichées.
On a intérêt à les vérifier pour être le plus près possible de son
site de vote. Voilà. Alors, par rapport à la préoccupation de Sola, il dit qu'aller voir les OPJ lorsque vous avez perdu votre carte, c'est une très longue procédure.
Mais c'est ça la procédure, il n'y en a pas d'autre. C'est la procédure qui est légale. Ensuite, lui, il a fait une proposition, il dit, voilà, est-ce qu'il veut...
Les nouveaux majeurs...
Non, il demande en fait qu'on puisse réviser. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas maintenant qu'on va réviser. Peut-être qu'on pourra réviser pour le prochain cycle électoral, qui va commencer en 2016. Mais je veux quand même préciser ici ce qui est important, c'est que la loi organique portant fonctionnement de la CENI, dans une des missions attribution de la CENI, demande à la CENI de découper les cycles électoraux au prorata des données démographiques et en fait c'est ça, voilà. Donc ce qui veut dire que selon la loi, la CENI ne peut plus faire la révision du fichier électoral elle-même et doit attendre que le gouvernement puisse faire le recensement administratif et c'est sur base du recensement administratif que la CENI maintenant pourra tirer ceux qui ont 18 ans qui sont électeurs pour leur accorder la carte électeur.
D'accord. Alors pour terminer, Monsieur Désiré Moulekela, qu'est-ce doivent faire les partis politiques et la société civile durant la période de la fiabilisation du fichier électoral?
En fait, ce qu'on leur demande, puisque ce sont en fait des partenaires, des parties prenantes dans le processus électoral, ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir sensibiliser, mobiliser, informer la population, ainsi que leurs adeptes, afin qu'ils puissent vraiment participer massivement à cette opération qui est importante.
De vérification des listes électorales.
Ils aillent visiter ces listes, voir dans les sites de vote, lire ces listes électorales.
Et quand est-ce que ces listes seront affichées?
Bon, en principe, ces listes seront affichées pendant 15 jours. les dates vont être données incessamment, mais ça sera, je peux dire, au mois de novembre si tout va bien. Mais bien avant que ces listes soient affichées, la CENI va procéder à une communication dans tout le territoire national pour que les gens sachent exactement quand va commencer l'affichage des listes électorales dans le site de vote.
Désiré Molekela, directeur chargé de l'éducation civique électorale à la CENI, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Plein de questions.